Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 21 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
10 casques bleus tchadiens de la MINUSMA ont été tués au Mali dans une attaque revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
RDC, l'Afrique commence à se ranger derrière Félix Tshisekedi, dont l'élection à la présidence a été validée par la Cour constitutionnelle congolaise.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié hier la liste officielle des 5 candidats pour la présidentielle du 24 février, Karim Wade et Khalifa Sall, définitivement écartés.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, coupe court à une tournée à l'étranger après des manifestations brutalement réprimées dans son pays.
Israël a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi mener des frappes sur des cibles iraniennes en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, 10 casques bleus tchadiens ont été tués et au moins 25 autres ont été blessés dans l'attaque la plus meurtrière de djihadistes contre l'ONU au Mali. Cette attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Elle a eu lieu à Agueloc, dans le nord-est du pays, à 200 km de la frontière algérienne. De Bamako, des détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Tôt hier matin, la ville martyre de Agueloc était encerclé par des véhicules remplis d'hommes armés. Ces véhicules se sont partagés la ville en fonction des positions des checkpoints. Puis il y a eu des attaques simultanées. Il s'agissait des checkpoints contrôlés par le contingent tchadien basé dans cette ville. Les casques bleus de la MINUSMA à Agueloc ont repoussé l'attaque complexe lancée par des assaillants. Les casques bleus ont pu neutraliser nombre d'ennemis et ont poursuivi les assaillants dans leur déroute. Un pick-up de la MINUSMA a été emporté par les assaillants. Les blessés de cette attaque ont été évacués dans les hôpitaux de la MINUSMA. Cette même force continuait à mener des opérations de couverture aérienne dans la zone afin de sécuriser les populations et leurs biens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Signalons aussi que la ministre française des Armées, Florence Parly, a indiqué dimanche matin que la force anti-djihadiste du G5 Sahel était en train de reprendre ses opérations. Après une lente montée en puissance, cette force, constituée par 5 États du Sahel, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, et qui doit atteindre 5000 hommes à pleine capacité, a connu un coup d'arrêt avec l'attaque de son QG le 29 juin à Sévaré, dans le centre du Mali.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié hier la liste officielle des 5 candidats en lice pour la présidentielle du 24 février, dont le président sortant Macky Sall. Ses deux principaux opposants, l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall et l'ancien ministre Karim Wade, ont été définitivement écartés. Ces derniers, qui avaient pourtant recueilli le nombre requis de parrainage, environ 52 000 signatures, sont frappés par des condamnations judiciaires.
Au Nigeria, l'ancien président Olusegun Obasanjo a accusé hier le président Muhammadu Buhari, candidat à un deuxième mandat, de préparer des fraudes massives pour remporter les élections générales du 16 février. M. Obasanjo, qui avait soutenu M. Buhari lors de son élection en 2015, a pu cette fois-ci son principal rival, Atiku Abubakar. La présidence nigériane a qualifié ces accusations, contenues dans une lettre ouverte cinglante, de farfelues et scandaleuses.
L'Afrique commence à se ranger derrière Félix Tshisekedi après la validation de son élection à la présidence de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle congolaise, et ce malgré les virulentes contestations du perdant Martin Fayulu, dont les appels à manifester sont pour l'instant restés sans écho. Le point avec Jacques Aristide.
L'opposant Félix Tshisekedi devrait prêter serment demain comme prévu d'après son entourage. Il va prendre la succession du président sortant Joseph Kabila. Il s'agit de la première transmission pacifique du pouvoir d'un président à l'autre et a fortiori de la première alternance. Martin Fayulu conteste ce scénario officiel. Il revendique la victoire et s'estime victime d'un putsch électoral. L'opposant se proclame le seul président légitime et appelle la communauté internationale internationale à ne pas reconnaître M. Tshisekedi. Raté toutefois, des pays africains ont félicité le président élu, dont l'Afrique du Sud et le Kenya, de même que la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Il s'agit également d'un désaveu pour les deux principales figures de l'Union africaine qui ont demandé en vain la suspension des résultats entachés à leurs yeux de sérieux doutes. Le président en exercice de l'UA, le Rwandais Paul Kagame, et le chef de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, voulaient se rendre en délégation ce lundi à Kinshasa. Leur déplacement a été reporté. L'UA refuse de parler d'annulation. L'Union européenne a également fait part de doutes.
Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a annoncé hier qu'il interrompait une tournée à l'étranger après des manifestations et leur répression qualifiée de brutale dans son pays. M. Mnangagwa dit vouloir un Zimbabwe calme, stable et qui fonctionne de nouveau. Des détails avec Fatouma Kalala.
En raison de la situation économique, je veux rentrer au pays après une semaine très productive de rencontres commerciales bilatérales, écrit le chef de l'État du Zimbabwe sur Twitter, annulant ainsi sa participation au prochain forum de Davos qui commence lundi. Le pays sera représenté par son ministre des Finances. À la recherche d'investissements étrangers, le président Mnangagwa s'est trouvé hier au Kazakhstan après avoir entamé sa tournée par la Russie. Au moins 12 personnes ont été tuées et 78 blessées par balle la semaine dernière, selon le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, une coalition d'organisations qui a recensé plus de 200 cas d'agression et torture. Mais cette répression n'est qu'un avant-goût, a averti le porte-parole de la présidence, George Charamba. Il accuse l'opposition de fomenter les désordres. La répression dénoncée par l'ONU nourrit l'inquiétude de voir le Zimbabwe renouer avec les pratiques des 37 ans de présidence de Robert Mugabe, chassé du pouvoir en novembre 2017 par les militaires.
Au Soudan, les forces de sécurité ont à nouveau usé hier de gaz lacrymogène contre les participants à une marche réclamant le départ du président Bichir, qui a rejeté toute responsabilité dans la mort de manifestants durant ce premier mois de contestation. Depuis le 19 décembre, la vague de contestation au Soudan a fait au moins 26 morts, dont 2 membres des forces de sécurité, selon un bilan officiel. Des ONG internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, parlent, elles, de 40 morts, dont des enfants et du personnel médical. Et elles accusent les forces de l'ordre d'en être responsables.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le président américain Donald Trump, qui marquait hier ses 2 ans à la Maison-Blanche, a critiqué la chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants après que Nancy Pelosi a rejeté son offre qui aurait permis de financer son mur à la frontière avec le Mexique. Jean-Roger Bion.
Nancy Pelosi s'est comportée de façon si irrationnelle et s'est tellement déportée sur la gauche qu'elle est désormais officiellement une démocrate radicale, a tweeté hier le président Trump. Le chef de l'exécutif a aussi reproché à Mme Pelosi et aux responsables démocrates d'avoir rejeté par pur intérêt électoral l'offre mise sur la table pour mettre un terme au shutdown, le blocage budgétaire des services fédéraux qui dure depuis près d'un mois. Le président a proposé notamment d'accorder un sursis de 3 ans à environ 1 million de migrants dont le statut temporaire a été abrogé et qui sont actuellement menacés d'être expulsés des États-Unis en échange du feu vert du Congrès à 5,7 milliards de dollars de financement pour le mur frontalier anticlandestin. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a affirmé qu'il soumettrait la proposition présidentielle à la Haute Assemblée cette semaine, mais le texte a peu de chances d'être approuvé à la Chambre basse contrôlée par les démocrates. Selon Mme Pelosi, la proposition n'est pas une concession, mais une compilation de plusieurs initiatives déjà rejetées par le passé et chacune inacceptable. Les démocrates affirment ne vouloir négocier que sur la base d'une solution permanente pour les migrants risquant l'expulsion.
Des frappes israéliennes visant des positions du régime syrien et de son allié iranien en Syrie dans la nuit de dimanche à lundi ont tué au moins 11 combattants, dont 2 Syriens, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les bombardements israéliens ont touché des cibles dans la région de Damas, selon l'Observatoire. Israël a annoncé de son côté avoir mené des bombardements en Syrie contre des positions iraniennes et du régime syrien.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En 2019, le Tchad table sur un déficit budgétaire de 5% de son PIB contre 6,3% en 2018. Afin de combler le déficit budgétaire, le gouvernement envisage emprunter 2,6 milliards de dollars sur le marché interne, tandis que plus de 3 milliards de dollars proviendraient de sources étrangères. Cette baisse du déficit devrait contraster avec une hausse des dépenses publiques qui passerait à 26,56 milliards de dollars pour 2019 contre 24,66 milliards de dollars pour 2018. L'Arabie Saoudite envisage de construire une raffinerie de pétrole et une usine de produits pétrochimiques en Afrique du Sud dans le cadre d'investissements de 10 milliards de dollars. L'Arabie utilisera son pétrole dans cette raffinerie dont la construction sera dirigée par sa compagnie d'énergie publique Aramco. Le constructeur d'électricité saoudien Aqua Power envisage aussi d'investir dans le programme d'énergie renouvelable de l'Afrique du Sud. Terminons avec Afrexim Bank qui accorde un crédit de 170 millions de dollars à la compagnie égyptienne Orascom Investments Holding pour soutenir l'expansion de ses activités panafricaines. L'accord fait partie des efforts de cette banque pour promouvoir les investissements intra-africains et la fabrication de produits d'exportation grâce au mécanisme de financement intra-africain. Cet accord est ainsi considéré comme une opportunité pour les investissements ciblés par l'Égyptien Orascom dans des entreprises sur l'ensemble du territoire africain.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On ouvre avec le football, les Coupes d'Afrique de clubs et tout d'abord la Ligue des Champions, deuxième journée de la phase de groupe.
Oui, dans le groupe B, les Sud-Africains d'Orlando Pirates et l'Espérance de Tunis, vainqueurs respectivement des Guinéens d'Oroya 3-0 et des Zimbabwéens de Platinum 2-0, prennent les commandes du groupe avec 4 points. Dans le groupe D, grosse frayeur pour Al Ahly qui a arraché le match nul in extremis en Algérie face à la JS Saoura 1-1. Le club Kerot garde tout de même la première place avec 4 points, à 1 point des Congolais de l'SV Club qui n'ont pas fait de détails devant les Tanzaniens de Simba, score 5-0.
Le TP Mazembe a lui perdu en Algérie.
Les Corbeaux ont été défaits 3-0 par le CS Constantine, solide leader de ce groupe C, devant les Tunisiens du club africain vainqueur des 1 en Égypte, devant Ismaili. Ça va mieux pour la tête d'Abidjan. Les Mimo à égalité de points avec tous les autres clubs du groupe A, avec 3 points grâce à leur victoire 1-0 devant les Nigériens de Lobby Stars. L'autre match du groupe a vu les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns remporter le choc face aux Marocains du Wydad de Casablanca, victoire 2-1.
On passe à la Coupe de la Confédération avec le tour de cadrage et on connaît désormais les qualifiés pour la phase de poule.
Et le club sportif spatien s'est qualifié grâce à sa victoire 3-0 face aux Ougandais de Vipers après avoir décroché une lune à l'aller. Deux clubs marocains ont également obtenu leur qualification. Le tenant du titre, le Raja de Casablanca Sambrier et le Na Oussende. Les Nigériens d'Enugu Rangers seront aussi présents à cette phase de groupe, tout comme les Ghanéens d'Asante Kotoko, tombeurs des Camerounais de Coton Sport du Garoua. Ça passe aussi pour les Zambiens de Mukana, les Kenyans de Gormaya et les Congolais de l'AS Otoho.
Élisée Salitas aussi s'est qualifié à domicile pour cette phase de poule.
Le club burkinabé a battu Al Nasr de la Libye par le score de 3-1 après avoir perdu 1-0 à l'aller. Un exploit pour le football burkinabé. Très remonté. Après leur défaite, les joueurs libyens ont saccagé les vestiaires du stade qui leur étaient réservés avant de s'en aller. Pour les autres qualifiés, ça passe pour les Amalek du Caire qui a écarté les Marocains d'Ihad de Tanger, tout comme la Renaissance du Bekane qui a renversé les Sénégalais de Djarafo. Qualification aussi d'Aksania Agadir, du Petro Atletico, du Zesso United et de Al Hilal du Soudan. Le tirage au sort de la composition des groupes aura lieu ce lundi au Caire.
Handball à présent avec le Mondial 2019 qui se déroule actuellement en Allemagne et au Danemark.
Oui, et les deux représentants africains revient au tour principal, une fois perdu leur match. La Tunisie face à la Hongrie 26-22 et l'Égypte contre la Norvège 32-28. Et puis, du basketball pour finir, la NBA est avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Indiana et Charlotte 120-95, Minnesota et Phoenix 116-114. Et les Clippers et San Antonio, 103-95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposant Félix Tshisekedi devrait, selon son entourage, prêter serment demain, comme prévu, après que la Cour constitutionnelle a confirmé son élection à la présidence lors du scrutin du 30 décembre dernier. Son principal rival, Martin Fayoulou, qui rejette l'arrêt de la Cour, s'est lui autoproclamé président légitime de la RDC, appelant à des manifestations pacifiques contre le nouveau régime. Pour sa part, M. Tshisekedi appelle à la réconciliation de tous les Congolais. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Cour constitutionnelle proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix.
Le tant attendu arrêt de la Cour constitutionnelle est tombé peu après 1h du matin ce dimanche 20 janvier 2019. Aussitôt après, devant quelques proches et militants de l'UDPS et de l'UNC de Vital Kamerhe, une coupe de champagne en main, Félix Tshisekedi a appelé à l'unité et à la réconciliation de tous les Congolais, rappelant au passage ce qu'il avait déjà dit il y a 10 jours.
Je serai le président de tous les Congolais, des Congolais qui m'ont élu et de ceux qui ne m'ont pas élu.
Appel déjà rejeté par Martin Fayoulou qui, de son côté, c'est la même nuit autoproclamé président légitime de la RDC et a appelé à ne pas reconnaître le nouveau président proclamé par la Cour constitutionnelle.
Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national.
À Kinshasa qui s'est réveillé dans le calme, de nombreuses personnes que nous avons croisées se rendant à leur lieu de culte ont appelé Félix Tshisekedi à l'humilité et Martin Fayoulou à prendre désormais les rênes de l'opposition.
Comme le Cour constitutionnel a confirmé, il n'y a pas moins de faire autrement. Pour Félix, vraiment, j'ai dit tout simplement courage et félicitations.
Le message est pour le président qu'il essaie un peu d'être humble. Là, peut-être, il pourra s'avancer petit à petit pour prendre des choses en main, parce qu'il n'a pas la majorité. Le message à Martin Fayoulou, en tout cas, qu'il accepte. C'est un enfant du pays qu'il prépare maintenant l'opposition.
Entre-temps, de nombreux candidats malheureux à la présidentielle et quelques chefs d'État de la région, y compris la SADC, félicitent le nouveau président de la République démocratique du Congo. L'Union africaine, elle, a annulé sa mission annoncée pour ce lundi dans la capitale de la RDC. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Togo, les députés de la 6e législature de la 4e République, élus le 20 décembre dernier, ont entamé leur mandat depuis le 8 janvier. Élus dans un climat politique assez tendu, les députés veulent, dans leur plus grande majorité, se tourner, selon notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson, et je cite, vers l'intérêt de la population.
Ils ont 5 ans pour offrir un meilleur visage au Togo, loin des tensions politiques et de la pauvreté qui assaillent les Togolais. Eux, ce sont les 91 députés élus lors des législatives du 20 décembre 2018. Il est temps de tourner le dos à la politique politicienne et faire face aux défis de développement, pense le député Innocent Kagbara.
Je pense qu'au Togo, on fait beaucoup plus de la politique politicienne. Il faut vraiment qu'on s'occupe de la population. Le gros problème du Togo, c'est la meilleure redistribution des richesses, afin que chaque Togolais puisse avoir 2 ou 3 repas par jour. Ça, notre priorité. Il ne faut pas que nous ayons un pays où il y a 2 vitesses, les uns qui sont dans l'opulence et les autres qui sont dans la pauvreté. Donc nous sommes ici pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure redistribution. Les lois que nous allons voter, que ça aille dans ce sens-là.
Cette meilleure redistribution des richesses du pays doit impérativement prendre en compte les personnes en situation d'handicap et de vulnérabilité, martèle le député Gaëtan Aoumezounou, un malvoyant de son état.
Je ne voudrais pas travailler sans les personnes vulnérables, les personnes handicapées, et mon défi serait de convaincre les collègues députés pour que tous nos travaux puissent prendre en compte les spécificités de chaque catégorie de population pour que nous puissions les inclure dans le cadre du développement durable, réel, concret, pratique et pragmatique.
Agbeome Kodjo, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, qui signe son retour à l'hémicycle, seul l'intérêt du peuple doit être en ligne de mire.
Ce qui va se passer ici doit être transpartisan et ne regarder que l'intérêt national. Notre posture militera uniquement dans ce sens, ce qui consolide l'avenir de la nation.
La 6e législature de la 4e République doit être proactive, estime le parlementaire Jerry Tama. Pour y arriver, il propose de redynamiser le Parlement togolais.
La législature dernière a voté 117 lois qui viennent exclusivement du gouvernement. Nous allons essayer de révolutionner ça pour faire en sorte que les députés élus puissent proposer des lois qui viennent des aspirations profondes du peuple togolais. Et il revient à cette assemblée de montrer en réalité que les députés doivent être au service du pays. Il y a quelque chose qu'on doit pouvoir innover dans cette assemblée. Quand vous avez une loi sociale qui concerne le devenir du peuple togolais, je ne vois pas un seul député futur d'unir qui va s'opposer à cette loi.
Malgré son grand penchant pour des initiatives en faveur de la population, le nouveau Parlement togolais ne perd pas de vue sa mission première, qui est de contrôler l'action gouvernementale. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Qu'attendent les Burkinabés de leur futur gouvernement? Le cabinet dirigé par Paul Kaba-Tieba a démissionné vendredi et son successeur devrait former une équipe pour relever de nombreux défis, dont notamment celui de la sécurité. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
La démission vendredi du Premier ministre Paul Kaba-Tieba et de son gouvernement semble avoir soulagé de nombreux Burkinabés. Ces dernières années, l'autorité de l'État a été réduite, les attaques terroristes sont devenues quasi quotidiennes et la situation économique est moins reluisante. Un citoyen apprécie la démission du gouvernement Tieba. Le fait d'avoir démissionné, c'est bien. Il aurait même dû le faire depuis trop longtemps déjà. Je crois que la prochaine équipe sera meilleure que celle de Paul Kaba-Tieba. Dr Siaka Koulibaly est président du conseil d'administration du Centre de suivi et d'analyse citoyen des politiques publiques. Il pense que le nom du nouveau Premier ministre n'aurait pas dû attendre.
Ce qui peut-être peut être retenu sur la question, c'est le temps mis à reconduire une nouvelle équipe qui peut présager de tractations qui se dérouleraient en dessous afin de trouver l'homme qu'il faut pour remplacer Paul Kaba-Tieba, mais surtout l'équipe qu'il faut pour pouvoir donner l'impulsion à la question sécuritaire et aux questions de développement.
Un gouvernement à venir pour lequel le Burkinabé Lambda a de fortes attentes. Tout ce que nous souhaitons pour ce futur gouvernement, c'est de nous ramener la paix et la sécurité.
Par rapport au prochain gouvernement et par rapport à la sécurité, c'est même de négocier avec soi-disant terroristes, négocier avec eux, c'est savoir ce qu'ils veulent afin que ces théories s'arrêtent.
Ce que j'attends d'eux,
C'est une question de sérénité pour nos gouvernements.
Pourquoi on prie Dieu pour que le nouveau Premier ministre et son gouvernement nous gèrent bien la sécurité. Sinon, ça ne va pas. C'est notre principal vœu. Nommé pour la première fois à la primature en janvier 2016, Paul Kabatieba va remanier à deux reprises en février 2017 puis en janvier 2018 avant la présente démission. Le départ du Premier ministre intervient dans un contexte marqué par un climat social de plus délétère, une insécurité devenue préoccupante liée aux attaques djihadistes ayant causé le déplacement de milliers de personnes et la fermeture d'environ 600 à 800 écoles selon plusieurs sources. Paul Kabatieba y aura duré 3 ans. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Pour terminer, les conditions dans les prisons africaines, le président du Comité international de la Croix-Rouge invite les dirigeants du continent à faire plus en faveur des détenus. Peter Maurer vient d'effectuer une mission sous-régionale incluant une escale à Abidjan en Côte d'Ivoire. Précision de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
C'est un tableau très sombre des prisons africaines que le président du CICR a dressé lors de sa visite à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la principale prison des Côtes d'Ivoire. Construite en 1980 pour accueillir 1500 détenus, la MACA en compte aujourd'hui plus de 5000. Et comme cette maison de détention, la plupart des prisons africaines, selon le CICR, sont confrontées à une surpopulation d'environ 200%. Une situation qui a d'énormes conséquences sur les détenus. Christian Cardon, chef de la délégation régionale d'Abidjan du CICR.
Pas suffisamment de nourriture pour nourrir l'ensemble des détenus présents. Un problème au niveau de l'hygiène, de l'accès à l'eau. Les détenus doivent dormir à tour de rôle, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez d'espace dans une cellule pour que tous les détenus puissent être allongés correctement. Donc ils doivent se relayer pour dormir. Des maladies comme la tuberculose, le beriberi, se propagent très 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 rapidement.
Pour le CICR, les gouvernants doivent agir. Christian Cardon.
Toutes les autorités doivent prendre la question des prisons beaucoup plus au sérieux et remettre la question des prisons à l'agenda des priorités. Il faut s'assurer qu'au sein d'un gouvernement, qu'on soit en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Sénégal, on puisse prévoir des budgets nécessaires permettant de nourrir tous les détenus de la prison. On ne peut plus faire face à des situations où, encore une fois, des détenus doivent dormir à tour de rôle ou des détenus, pire encore, sont amenés à mourir de faim.
Plusieurs organisations ivoiriennes des droits de l'homme, comme le MIDH, mènent aussi le combat en faveur du respect des droits des détenus. Pour Doumbia Yakuba, président du MIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, les citoyens sont facilement jetés en prison.
Il y a eu des mesures de grâce, il y a eu des mesures d'amnistie, mais voilà, quelques années après, en fait, les prisons sont surpeuplées. Comment faire pour que, en fait, dans notre code où il est dit que la détention n'est que l'exception, ne devienne pas, en fait, finalement, la règle qui est aujourd'hui appliquée, parce que, voilà, on va très facilement en prison.
Pour marquer leur solidarité aux détenus de la MACA, le groupe musical Magic System et l'artiste Kadim leur ont offert un spectacle à l'occasion de la visite du CICR. Kadim.
C'est simplement un message d'espoir à l'endroit des prisonniers pour leur dire qu'on ne les oublie pas, qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas et que ce à quoi les gens de l'extérieur ont droit, de temps en temps, chaque fois que nous pourrons, nous viendrons ici leur apporter, comme on dit dans la musique, la vibration.
La Côte d'Ivoire compte 34 prisons, des prisons en proie souvent à des mutineries liées à la précarité dans laquelle vivent les détenus. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique. 1, 2, 3, 4.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console d'Al Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.